Rien ne peut remplacer la parole d'une personne ayant vécu un choc plus ou moins grave, plus ou moins douloureux. Aussi, l'association Élie m'a proposé de tendre mon micro et d'enregistrer ces témoignages. Déchocage est le résultat de ces rencontres. Amis auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue pour notre deuxième session spéciale déchocage où j'ai la famille d'Anaïs, parce qu'en fait c'est par Anaïs en fait qu'on est rentré en contact. Il y a 15 jours, on a écouté l'histoire de Rémi qui est donc ton grand frère.
C'est ça.
Et merci beaucoup d'ailleurs.
Pas de souci, c'était sympa de pouvoir partager cette histoire. Je l'avais déjà partagé à mon entourage, mais là, partager derrière un micro... C'est vraiment quelque chose de différent. Et
c'est une autre expérience.
C'est ça, ouais.
Et vous êtes tous les deux les enfants de Jean-Hervé. Jean-Hervé, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Bah, c'est, bah,
j'assure parfaitement mon rôle de chef de la tribu.
Donc, si j'ai bien compris, Rémi n'est pas la première personne chez vous à avoir contracté un lymphome Hodgkinien. Et, c'est quoi votre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, tout à fait. Moi, j'ai été atteint par cette maladie au début des années 80. Et donc, en ce temps-là, je travaillais dans la région du Havre. Et un beau jour, j'ai commencé par me réveiller dans la nuit, comme disait Rémi il y a 15 jours, avec des suées nocturnes. Et plus le temps passait, plus ça se développait, à tel point que le matin, je me réveillais les draps trempés. Je suis donc parti consulter un médecin généraliste qui m'a examiné et je lui ai dit « Je comprends pas, j'ai des suées nocturnes et en plus de ça, j'arrive plus à fermer mes cols de chemise parce que dans mon travail, je portais chemise et cravate. » Donc il m'a examiné et il m'a dit « On va faire une batterie d'examen. » Il m'a donc prescrit des radiographies, des poumons, me semble-t-il, de mémoire et ensuite, bien sûr, une analyse de sang. Et quelques temps après, il m'a convoqué, il m'a invité, il m'a dit « Vous avez une maladie sérieuse, je pense, mais ça se soigne, rassurez-vous. Vous allez aller voir tel médecin au Havre. » Donc je suis allé consulter ce médecin. Et donc ce médecin en question m'a expliqué, au vu des éléments qu'il possédait, que j'avais la maladie de Hodgkin. Donc je ne savais pas ce que c'était, il m'a expliqué. Et donc ensuite, je fais une nouvelle batterie d'examens dans la clinique voisine, notamment un prélèvement de moelle osseuse dont je me souviens toujours parce que c'est un peu impressionnant, et des analyses de sang et d'autres radiographies. À la fin des résultats, le médecin m'a prescrit de la chimiothérapie et m'a annoncé que ce ne serait pas fini, qu'il y aurait également des séances de radiothérapie.
D'accord, donc la totale.
Donc la totale. Donc ce que je me souviens, c'est que j'avais donc la maladie de Hodgkin de niveau sous-médiastinal, je crois que ça, c'est comme ça. C'est le médiastin qui est touché.
Ouais, c'est...
Le médiastin, c'est au-dessus des poumons, je crois.
C'était au même niveau que moi, ouais, c'est ça, médiastinal, c'est au niveau, tout ce qui est au niveau de la cage thoracique qui se développe à partir du cou jusqu'à au niveau du milieu du thorax.
Absolument.
C'est Anaïs qui a fait des études de médecine, mais je crois que tout le monde est calé sur le sujet.
Dans certains domaines de médecine, on connaît quelque chose.
J'ai l'impression, oui.
On n'a pas eu le diplôme, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on l'aurait pu.
On connaît des mots savants, plus de 3 syllabes.
Mais comme c'était il y a longtemps, je ne sais pas si c'était déjà les mêmes critères pour dire le niveau de gravité, etc. Donc, je ne sais pas trop ce que le médecin avait conclu, quoi.
Sans indiscrétion, Jean-Hervé, vous aviez quel âge à l'époque, en 80?
30 ans.
D'accord.
Et donc, je me souviens, ce qui m'avait rassuré, le médecin, à la fois le spécialiste qui me suivait et le médecin généraliste, répétaient que ça se soignait bien. je me rappelle, on me l'avait annoncé à entre 70 et 80%.
Oui, ce qui est effectivement plutôt un bon chiffre quand on annonce une maladie grave.
Oui. Absolument, oui. Donc, à ce moment-là, j'étais éloigné de ma famille et de mes amis puisque je venais de commencer à travailler dans la région du Havre. Donc, j'ai eu du mal à encaisser l'annonce de la maladie parce que je n'avais personne à qui en parler. Donc, c'est le moment le plus difficile que j'ai vécu dans le traitement de ma maladie. Le fait d'avoir à réfléchir sur ce que j'allais devenir, comment ça allait se passer, est-ce que j'allais m'en sortir ? Parce que c'est la question qu'on se pose aussi.
Exactement,
forcément,
c'est dur
quand
à dire,
on annonce
mais...
ça.
Et puis là, donc, littéralement, vous vous retrouvez seul.
Et j'étais absolument seul. Donc forcément, j'ai eu du mal à encaisser. Ça a duré, mais je ne me souviens pas trop combien de temps ça a duré, cette phase un peu, on va dire, de déprime. Et puis, quand le traitement a été lancé au niveau du Havre, j'ai demandé à être rapatrié dans ma région d'origine, la Côte de Granit-Rose. Un peu de pub pour la Côte de Granit-Rose, hein, tant qu'à faire.
Et vous n'avez pas les gestes.
La fierté.
Et c'est là qu'on m'a dit que le médecin spécialiste, dans le cadre d'une conversation, m'a dit que j'habitais une région qui était très radioactive, si l'on peut dire. Parce qu'il y a une très forte émission de radon. Chose que je ne savais pas et qui n'était pas forcément liée à ma maladie. Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Ensuite, donc, j'ai suivi mon traitement d'abord de chimiothérapie, où j'ai énormément souffert parce que j'étais en permanence sujet à de très fortes nausées. Je me rappelle que des gens venaient me voir et ils étaient impressionnés, ils avaient du mal à parler devant moi. Après, j'ai su qu'il me mettait à l'article de la mort.
On peut peut-être rappeler qu'à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, le cancer continue à faire peur, mais il est rentré dans les mœurs parce qu'il y a eu quand même énormément de cas, mais que dans les années 80, effectivement, les gens qui étaient atteints de cancer étaient vus comme des parias. Quand même. Il y avait quand même une sorte d'ostracisation qui était vraiment très compliquée à vivre pour les gens qui étaient malades. C'était la double peine.
Tout à fait, absolument, oui. On parlait moins de cancer, et quand on avait un cancer, on était soit on est très très vieux ou vieux pour cet âge-là, que c'était plus ou moins habituel quand on était vieux, mais quand on était jeune, c'était inconnu parce que personne ne connaissait cette maladie à mon niveau. Moi, je connaissais pas, dans mon entourage non plus, ni même dans la région où j'étais, tant sur la côte de Granit-Rose que dans la région du Havre, ça n'était pas connu, personne n'en parlait. Quand je parlais de maladie du Hodgkin, on me demandait, mais qu'est-ce que c'est ?
Il y a aussi tes médicaments, tu disais que tu avais de fortes nausées. Et nous, on a eu la chance parce que les médicaments antinauséeux ont vraiment évolué entre-temps. Mais à ton époque, ce n'était pas du tout le cas. Tu avais la chimio qui donnait les nausées, mais pas les traitements qui permettaient de soulager ces nausées.
Absolument, oui, c'est ça.
Nous, on avait, dans le médicament, je me rappelle, les ordonnances qu'on avait, les médicaments pour la chimio qu'on prenait lors des traitements. Lors des cycles à l'hôpital, on avait aussi quelques-uns. Lorsqu'on revenait à la maison, moi j'ai eu la chance d'avoir un des premiers protocoles où une partie je pouvais se prendre à la maison. Mais à côté, à la maison, on avait une dizaine de médicaments juste pour contrer les effets secondaires de la chimiothérapie. Et je pense pas qu'à ton époque, il y en avait autant à prendre à la maison. Donc on te laissait juste vivre bonne chance chez toi et on revient au prochain cycle.
Vogue la galère.
Oui, c'est tout à fait ça, puisque je me souviens que j'ai passé les trois quarts de mon temps pendant la chimiothérapie dans mon lit et j'écoutais France Culture à la longue parce que France Culture, ça avait l'avantage de changer un peu les idées si on se concentre et puis ça favorisait aussi l'endormissement.
Ah, donc c'est pour ça que tu as une grande culture générale maintenant.
Peut-être, grâce à mon lymphome de Hodgkin, absolument. Donc j'ai vécu donc la première phase, la chimiothérapie. Donc j'ai vécu difficilement et ensuite j'ai eu une phase, alors la phase de chimiothérapie, je ne me rappelle plus la durée, mais ça a duré plusieurs mois. Et en ce temps-là, m'a-t-on dit après qu'on faisait de la chimiothérapie avec le char d'assaut, ça veut dire qu'on employait des éléments très puissants, des médicaments très puissants, trop puissants peut-être aux yeux de la médecine aujourd'hui, mais c'était ce qui se pratiquait compte tenu des connaissances du moment. après la chimiothérapie, j'ai fait une phase longue de radiothérapie. Et c'était aussi difficile parce que la radiothérapie, elle n'était pas dosée comme elle est aujourd'hui. Donc, j'ai subi de fortes doses de chimiothérapie et j'étais également très malade avec des nausées pendant la chimiothérapie.
La radiothérapie.
Tout à fait. Les nausées, j'en ai eu pendant très longtemps. Même une fois les traitements terminés, certains éléments me donnaient la nausée. Rentrer dans un univers, dans le cabinet du médecin, où il y a une odeur particulière de plus ou moins de médicaments, passer près d'un hôpital, d'une clinique, j'avais la nausée. Et quand je sentais l'odeur d'un médicament, c'était les corticoïdes. Quand j'ai vu que les enfants Anaïs et Rémi prenaient des corticoïdes, j'ai failli avoir la nausée. Mmh. Et pourtant, c'était 30 ans après. Parce que je savais que la corticoïde me donnait envie dès que je ne pouvais plus l'avaler au bout d'un certain temps. J'avais beaucoup de mal.
Je me souviens les premiers justement, jours après la chimio, la première chimio de Rémi, quand il a vu qu'il avait des corticoïdes, il m'a dit « Oh là là, mais ce médicament, c'est terrible, j'en ai des mauvais souvenirs, Rémi, il va être mal. » Mais je ne lui ai pas dit parce que j'ai peur que du coup, il ressente les symptômes, rien que je lui dise que moi, j'avais mal vécu, quoi. Donc, ça t'avait marqué, ça, les corticoïdes.
Tout à fait, oui. Donc, ensuite, les traitements se sont quand même déroulés normalement. Je n'ai pas eu d'autres conséquences particulières dans l'immédiat. Donc, j'ai été considéré comme remis de ma maladie au bout de 10 ans, parce qu'en ce temps-là, c'est au bout de 10 ans qu'on nous disait que la maladie était bien... On s'était bien éloigné de la maladie.
Oui, je précise qu'après 10 ans, si jamais on était malade de nouveau, on considérait que c'était une nouvelle maladie, que ce n'était pas une rechute.
Voilà. Ensuite, ce que je voudrais signaler quand même, c'est que je vous ai dit que j'avais eu des traitements puissants. Et j'en subis toujours aujourd'hui les conséquences. Parce qu'avec les progrès de la médecine, maintenant on se rend compte que ces traitements puissants ont eu des conséquences pour ce qui me concerne sur mon cœur. J'ai la valve aortique qui avait été touchée par le rayonnement et qui a calcifié ma valve aortique. Donc depuis quelques années, je suis suivi. D'ailleurs, on me l'a changé. J'ai maintenant une valve aortique porcine. Donc, je peux jouer le cochon.
Il le fait très bien.
Ensuite, j'ai également eu, mais rapidement, après la fin de la radiothérapie, j'ai eu des problèmes avec ma thyroïde.
D'accord, oui.
La thyroïde avait également été touchée par le rayon et elle a été totalement détruite.
D'accord.
J'ai dû prendre rapidement un médicament pour remplacer l'hormone de la thyroïde.
Il faut aussi se dire que maintenant, ça a très bien évolué. Même quand il s'agit des rayons, maintenant, c'est bien plus ciblé avec la technologie. Comme a dit mon père avant...
Que ce soit en puissance ou en ciblage, ils sont
Mon père, il visait pas des endroits spécifiques, il prenait le torse, la moitié du torse, et on bombardait partout pour être sûr qu'il n'y avait plus rien. Maintenant, on cible précisément, on fait tout pour éviter les effets secondaires et de toucher des organes qui ne se sont pas atteints.
Tout à fait, oui. Donc, je dirais qu'au vu de cette expérience, je dirais que c'est une expérience difficile que j'ai vécue, mais qu'au bout d'un certain temps, je savais que je m'en sortirais parce que je voyais que les choses, malgré les difficultés que je rencontrais, les choses allaient de mieux en mieux et que les cellules, les mauvaises cellules avaient disparu et ne revenaient pas. Mmh. Ensuite, je voudrais ajouter quelque chose au niveau de la maladie d'Anaïs et de Rémi parce qu'en ce qui me concerne, vu que ça fait déjà un bail, que j'ai vécu ça. Maintenant, je m'en porte très bien. C'est un vieux souvenir. Je sais que j'ai une expérience que tout le monde n'a pas eue, mais que dans la famille, beaucoup ont eue, n'est-ce pas?
Trop autour de cette table.
Donc là, maintenant, je vais vous dire ce que j'ai vécu à l'annonce de la maladie de Rémi et d'Anaïs.
Donc, on est 40 ans après, là.
40 ans, ouais. Voilà. Donc je dirais que concernant Rémi, je n'avais pas décelé les symptômes comme quoi il pouvait avoir la maladie de Hodgkin. C'est peut-être le fait qu'il soit un peu éloigné de nous, puisqu'il vivait à Lyon et nous sommes à Caen.
Et aussi qu'on nous avait dit, et même les médecins, que c'était prouvé scientifiquement que cette maladie n'était pas héréditaire. Donc on ne pouvait
aussi,
pas se dire
absolument.
Que...
Oui, avant que Rémi ait sa maladie, on ne pensait pas du tout qu'il y avait un risque plus élevé que les autres. Donc, même si papa il nous en avait parlé de sa maladie, on était au courant qu'il avait eu ça, etc. Mais nous, on n'était pas du tout inquiets sur un risque quelconque d'avoir la même maladie.
Tout à fait, d'accord. Donc, quand j'avais appris, quand on lui a annoncé la maladie de Hodgkin, j'ai dit, c'est mal barré, il n'y a pas de bol. Alors qu'il commence à rentrer dans la vie active, il commence par un gros truc comme ça. Donc, j'en ai pris mon parti et je me suis dit, maintenant, notre rôle à nous, c'est de l'accompagner. Et c'est pour ça qu'on l'a accompagné, on l'a suivi, on l'a aidé comme on a pu.
Je fais une petite parenthèse par rapport à ce que vous êtes en train de dire, mais au même titre que vous avez exprimé le fait que vous, quand on vous l'a annoncé, vous étiez seul, je précise effectivement qu'il y a des moments, et là je pense vraiment aux accompagnants, quand on sait pas trop comment aider la personne, déjà être là, c'est quelque chose de très important. Ouais.
Juste de savoir s'il va bien ou pas, s'il a
je
mal.
Je confirme ce qui est important pour l'entourage, c'est d'être attentif au comportement, aux paroles, à l'attitude de la personne qui est malade. Mais il ne faut pas non plus avoir un comportement trop intrusif. Il faut laisser la personne vivre sa maladie. Il faut juste l'accompagner, répondre à ses demandes, la faire parler quand elle est disposée à parler.
Ouais, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire et qu'on peut voir des fois avec le regard des gens, c'est les gens qui n'arrivent pas à accepter la maladie, les accompagnants. Et là, soit ils ne parlent pas, ou ils vont se mettre en retrait, ou des fois ils sont trop intrusifs, comme disait mon père. Et aller toujours demander tous les jours ça va, être aux petits soins et tout. Des fois, on voudrait juste être un peu seul ou garder notre vie et faire comme si, ok, il y a la maladie, mais c'est pas la fin du monde. On peut toujours faire des activités et des fois un peu sortir de la maladie, ça aide aussi.
C'est vrai que moi, j'avais eu du mal pour quand Rémi était à la maison, parce que je savais pas justement quels mots employer, quand les employer. On veut être là pour la personne, mais on est perdu, on sait pas quoi faire. Même si on sait que très bien ce qu'il vit quand même, parce qu'il nous en parlait, on sait pas quoi répondre. Et je trouvais que je me sentais vraiment, le mot qu'on emploie le plus souvent, c'est l'impuissance. Parce qu'on est là, mais on sait pas comment l'aider, quoi. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on se rendait disponible et puis on s'adaptait en fonction de son envie et du moment, quoi.
Oui, je rajouterais que, et c'est à mon avis la chose la plus difficile à faire, mais c'est d'essayer de rester le plus naturel possible, en fait.
C'est ça. C'est le mot exact. Pour moi, si une personne, tu la connaissais avant, qu'elle soit malade ou pas, il faut être le même comportement qu'avant. Moi, j'ai vu des potes où, quand j'étais malade et qu'ils venaient me voir... Et c'était plus, ils avaient plus tout le même comportement qu'avant. Ils avaient beaucoup de mal à parler, à rigoler comme avant. Et au contraire, j'avais d'autres potes qui étaient très portés humour et à faire des blagues sur tout n'importe quoi, qui eux n'avaient pas peur de faire des blagues sur la maladie. Et vu que moi je le prenais bien, je rigolais avec eux, ils se disaient, je peux continuer. Et donc des fois, faut pas se dire, si avant j'étais le petit drôle de la troupe et avec ce pote-là, et faut continuer d'être le petit drôle et continuer de faire des blagues. S'il prend mal la blague, faut se dire, je refais plus le blague de ce type.
Là, j'étais trop loin là-dessus.
J'étais trop loin. Ouais. Mais je pense qu'honnêtement, comme disait ma sœur, c'est rester comme avant, regarder les mêmes relations, placer des petits mots. S'il sent que vous sentez qu'il est capable de parler de sa maladie, et lui poser des questions. Si vous avez besoin d'informations, des fois, l'entourage a besoin de comprendre ce qui se passe aussi. C'est des maladies peu connues, donc de développer, de raconter ce qui s'est passé et tout, des fois, ça aide. Mais de rester naturel. Tous les parties doivent parler et communiquer, comme beaucoup de relations d'ailleurs, pas que pour la maladie.
Ce que disait Jean-Hervé tout à l'heure, de toute façon, c'est être à l'écoute.
Tout à fait, absolument. Et ça, c'est concernant l'entourage. Après, concernant les relations avec les personnes extérieures. Quand les personnes extérieures apprennent de quoi vous êtes malade, bien sûr, vous leur annoncez ou votre entourage l'annonce, vous n'entrez pas dans les détails, mais vous voyez tout de suite, immédiatement, un changement de comportement dans ces personnes extérieures. Parce qu'elles sont choquées, elles ne s'attendent pas à l'annonce de cette maladie. Et donc, beaucoup de gens ont du mal à gérer cette situation. Beaucoup de gens se mettent sur la réserve et limitent ensuite les relations qu'elles avaient avant. Elles font le minimum, je dirais. Parce qu'elles ne savent pas quoi, elles ne savent pas comment se comporter, quelle attitude avoir. Mmh. Et donc, le rôle du malade et de son entourage, c'est d'expliquer que le malade assure, que l'entourage aussi, et qu'il faut avoir un comportement habituel quand on rencontre le malade ou l'entourage. Il faut être comme d'habitude. C'est comme l'entourage avec le malade. C'est exactement la même attitude qu'il faut avoir. J'ajouterais que concernant Anaïs, j'avais décelé très tôt la possibilité qu'elle ait la maladie du Hodgkin. Parce qu'elle disait très souvent, plus de deux mois avant, elle disait qu'elle était souvent fatiguée. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle était fatiguée. Certes, elle faisait des études de médecine, mais bon, c'est fatigant, mais pas au point où elle le disait pour être toujours fatiguée. Ensuite, à un moment donné, elle me dit qu'elle avait chaud la nuit. J'ai dit, ça, c'est pas bon signe, ça. Parce qu'il n'y avait pas d'autres symptômes.
Et puis là, vous commencez dans la famille déjà à avoir un petit peu d'expérience dans le domaine. Donc,
voilà, et donc l'expérience de la famille. Et après, quand elle a dit qu'elle transpirait la nuit, j'ai dit, je sais ce qu'elle a. Je me suis dit, mais je ne l'ai dit à personne, parce que bon.
Surtout qu'Anaïs avait fait aussi les démarches de son côté pour lancer plutôt la prise en charge. Elle a été voir le médecin plusieurs fois en lui disant, j'ai ça, 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 dans ma famille, il y a ça. Faudrait peut-être faire des tests pour être sûr. Elle a poussé la chose au plus loin, vu l'hématologue et tout, mais sa maladie, elle le racontera elle-même, était plus dure à diagnostiquer que mon père et moi, par exemple.
Tout à fait, oui. Et donc ensuite, quand on lui a annoncé le diagnostic, je n'ai pas été surpris, mais je savais comment ça allait se passer. Mais je me suis dit, on n'a vraiment pas de chance. C'est une maladie qui n'est prétendument pas été héréditaire. Ouais. Et alors moi et mes deux enfants l'ont. Pourquoi ?
On nous a quand même dit après qu'il existait de très rares cas de symptômes de famille Hodgkinien qui touchaient du coup, comme son nom l'indique, une famille. Mais que, par exemple, même les hématologues spécialisés en lymphome de Hodgkin n'ont, par exemple, jamais connu ce type de symptômes. Donc, vu que déjà que c'est rare le lymphome Hodgkinien, si en plus c'est extrêmement rare d'avoir dans cette maladie des familles, on a coché toutes les cases pour le jackpot, mais on n'a pas gagné d'argent.
Il disait aussi que souvent, en fait, c'est dans la famille, mais plutôt éloigné. C'est pas le père et les enfants, c'est plutôt une tante, un cousin, ou vraiment un peu plus éloigné. Donc c'est pour ça que nous, ils n'imaginaient pas que ça se passe comme ça, quoi.
Je reprécise ce que disait Rémi en préambule, c'est qu'il y a aujourd'hui où en sont les études, en tout cas, il n'y a pas de lien génétique, sur cette maladie-là. Et je rappelle, parce que c'est toujours bon de le rappeler, qu'on peut pas attraper un cancer parce que quelqu'un a un cancer. Vous pouvez côtoyer des gens qui sont malades, il n'y a aucun problème.
On est encore suivi par la recherche. En indiquant plein de choses qui ne pourraient paraître à l'opposé de la maladie. Par exemple, ce que je mangeais quand j'étais enfant, si je mangeais ce type d'aliments ou pas, est-ce que j'étais proche d'agriculture avec utiliser des engrais bizarres. Donc là, on essaye pour la recherche de faire avancer la chose avec notre cas. Et que j'incite tout le monde à faire, parce que c'est en recensant les cas qu'on permet de trouver des liens de cause à effet et de savoir pourquoi on attaque ce dérèglement qui crée des cancers. C'est notre corps qui génère le cancer, ce n'est pas les autres qui nous donnent le cancer, c'est notre dérèglement de notre propre corps.
Merci de le préciser. Jean-Hervé, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai même été sérieux la plupart du temps, donc j'ai fait un exploit.
Oui, je l'affirme, parce que même dans la vie de tous les jours, aller voir des magasins, il arrive à faire le pitre devant le magasin. Donc on se demande qui est le père des fois.
Écoutez, moi je propose que la prochaine fois qu'on se réunisse en dehors des chocages, qu'on se fasse un podcast où vous avez toute la liberté de pouvoir exprimer tout ce que vous voulez. Un énorme merci à tous les trois de m'avoir reçu pour cette deuxième aventure, et je vous propose qu'on se retrouve dans 15 jours pour parler de l'histoire d'Anaïs.
Merci.
À dans 15 jours.
Déchocage est réalisé par TMDJC Création et produit par l'association Eli. Retrouvez la conversation entre Jean-Hervé, Anaïs, Rémi et Sébastien, ainsi que l'ensemble de nos productions sur eli.fr. E2LYE.fr.
J'ajouterai maintenant, j'ai pas fini.
TMDJC Creations.
Le micro est toujours ouvert.